Merci Antoine pour ce florilège de citations tout à fait intéressantes qu'on pourrait multiplier et qui appellerait d'ailleurs, c'est très intéressant, des analyses rhétoriques très précises, hein, l'argument de l'effet pervers, le remède est pire que le mal, l'argument des parallèles, l'argument ad futurum, j'ai tort aujourd'hui, mais à l'avenir j'aurai raison, etc. etc. Il y a comme ça, il existe des catégories d'analyse de tous ces argumentaires qu'on pourrait appliquer systématiquement. La question de l'immigration, ça n'a jamais été fait, vraiment. Il y a quelques auteurs qui ont écrit des articles là-dessus, mais là, il y a un matériau extraordinaire pour mener ce genre d'analyse, et puis ensuite essayer de voir quels sont les arguments qui portent, parce qu'il y a des arguments qui sont plus forts que d'autres, intrinsèquement, il y a des arguments qui valent également par leur contexte, par les leçons de l'histoire, etc. etc. Donc, voilà, je pense que ça vous a déjà pas mal inspiré, et nous allons passer maintenant à un thème connexe, et traité sous un angle assez différent, donc la géographie politique, je dirais. Donc Camille, à toi la parole.
Merci beaucoup à François Héran et à l'Institut des Migrations pour cette invitation à intervenir aujourd'hui. Moi, je vais intervenir effectivement du point de vue de la géographie et donc en essayant de questionner avec cette vision de géographe formé aux études migratoires, donc je ne vais pas parler que de géographe et de géographie, de questionner cette fausse évidence, en fait, que serait la frontière. Donc j'ai choisi de partir de cette citation de Georges Perec sur l'espace, qui justement met en évidence cette fausse certitude que serait l'espace, que seraient les notions spatiales. Et donc ici, on parlera de cette notion particulière, chère à la géographie politique, qu'est la frontière. Si vous y pensez, il y a cette tendance, y compris dans le débat politique, à naturaliser la frontière. Si on pense à tous les débats qu'il y a eu autour, par exemple, de l'éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union européenne, hein, avec cette forme de naturalisation de la frontière en disant, mais il est évident, la géographie nous le dit, donc les géographes ont été interpellés par exemple à ce moment-là, la Turquie n'est pas européenne. Donc en fait, les géographes s'inscrivent en porte-à-faux contre cette naturalisation de la frontière, cette idée de la frontière linéaire, et c'est pas du tout récent, c'est pas nouveau, c'est pas propre aux études migratoires. Alors c'est sur cette tension que j'interviendrai aujourd'hui, en fait, cette tension entre cette frontière, cette idée de la frontière comme ligne, et une idée un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile à appréhender a priori, de la frontière comme autre chose qu'une ligne, une ligne dans le sable, une ligne dans la mer. Et déjà, en partant de cette définition d'un géographe politique, Bernard Hettel, de la frontière, on voit bien qu'il y a cette tension-là entre deux définitions possibles, dont d'une part la définition classique, hein, celle qui reviendrait à dire que la frontière est une séparation entre deux territoires, qu'elle se matérialise par une discontinuité, un terme important en géographie, où deux systèmes politiques se font face, donc cette idée d'une ligne, en fait, qui représenterait la séparation entre deux systèmes politiques qui sont bien évidemment dans cette définition deux États et dont l'objectif est à la fois de protéger et de filtrer, de laisser passer, donc un lieu à la fois de blocage mais aussi d'échange, hein, puisqu'on va tirer profit aussi de la présence de la frontière, donc des différentiels aussi générés par cette frontière pour échanger des choses de façon licite ou illicite, échanger des choses, des personnes selon que ces échanges soient autorisés ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la définition de Bernard Hettel, il nous dit, en fait, de nouvelles pistes s'ouvrent aujourd'hui aux chercheurs, et c'est de ça que je vous parlerai en particulier aujourd'hui, avec l'émergence de nouveaux pouvoirs. Donc il y a cette idée qu'en fait, d'un côté, on aurait cette frontière linéaire qui serait la frontière des États, et de l'autre, l'émergence de nouveaux pouvoirs qui nous mèneraient à réfléchir à d'autres formes de frontières, au-delà de la représentation classique de la frontière, parce que vous savez que les géographes font des cartes et s'intéressent beaucoup à la question de la représentation. Et donc, au-delà de la représentation classique de la frontière, il faudrait s'intéresser à d'autres formes, d'autres façons, en fait, de représenter cette frontière. Et cette évidence-là, je vais essayer de la questionner un petit peu aujourd'hui, cette idée que d'un côté, il y aurait la frontière ligne qui serait celle des États et d'autres types de frontières qui ne seraient pas celles des États, mais d'autres formes de pouvoir. En réalité, c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. Bon. Donc, on va rentrer ensemble dans l'épaisseur, dans la complexité de la frontière. Hein. Et donc, c'est ma présentation, c'est aussi un peu une invitation. Hein. Je n'aurai pas véritablement de conclusion, mais c'est une invitation à faire preuve d'un petit peu d'imagination géographique hein, quand on réfléchit à cette question de la représentation et aussi de l'investigation de la frontière. Donc, je vous parlerai aussi de comment on travaille sur la frontière, comment on analyse, comment on étudie la frontière et en particulier du point de vue ce sera, comme l'a dit François, au point de vue d'une géographe de terrain qui fait des terrains donc, ethnographiques. Voilà. Donc, on verra qu'au fil de ce voyage, on rencontrera de nombreux termes qui se réfèrent à la frontière. Mouvement transfrontalier, territoire transfrontalier, place marchande transfrontalière, lieu frontière, frontière zone, frontière mobile, ça donne le tournis, frontière réticulaire. Voilà, toutes ces expressions, je les emprunte à d'autres chercheurs, hein, elles ne sont pas de moi. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc un petit voyage au sein des études migratoires, un petit voyage géographique pour essayer de trouver la façon dont cette question de la frontière a été abordée. Voilà, et au fil de ce voyage, j'essaierai de vous montrer ce qui a évolué au niveau des questionnements et aussi des méthodologies. Je commence dans les années 90, c'est un petit peu arbitraire, mais pas complètement. Parce que les années 90, même si on peut dire que la pensée sur les migrations, comme on l'a vu avec l'intervention d'Antoine Pécou, est aussi ancienne que, au moins que les sciences sociales, on peut faire l'hypothèse, hein, et je parle d'un article en particulier d'Hervé Domenac, qui montre que les années 90, c'est aussi ce moment où les sciences sociales vont intégrer un discours global sur les migrations, une forme de complexité à la confluence de plusieurs disciplines dans leurs analyses. Hein, donc c'est un peu un moment important dans la structuration d'un champ interdisciplinaire scientifique qu'on peut appeler les études migratoires. En fait. Donc c'est pour cela que je partirai de ce moment-là, et aussi parce que ça a été un moment important, un moment qui a été marqué par la réflexion sur la mondialisation en général dans les sciences sociales, et qui donc a amené forcément des réflexions importantes sur les frontières. Donc je pars des années 90 pour ce petit voyage, et aussi je pars d'une question qui n'est pas... qui ne couvre pas toutes les questions des études migratoires. Si vous avez l'habitude de suivre ce séminaire et les leçons de François Héran, vous le savez, les études migratoires se structurent autour de quelques grandes questions, à savoir, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on part ou qu'on ne part pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers tel ou tel endroit, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est arrivé, et toutes les questions d'intégration, d'assimilation, etc. Et moi, je parlerai d'autre chose. En fait, je parlerai de cet entre-deux de la frontière, ce moment, en fait, finalement, non pas pour comprendre ce qui se passe au point A et au point B, si on considère que le point A, c'est le lieu de départ et le point B, le lieu d'arrivée, même si on sait que c'est autrement plus, souvent beaucoup plus complexe, mais en tout cas, je m'intéresserai à ce qui se passe entre le point A et le point B, c'est-à-dire cet entre-deux migratoire qui est amené à prendre une place de plus en plus importante, en fait, dans les travaux sur la migration et notamment autour de la notion de frontière. Et ce qui m'intéresse dans cet entre-deux, dans ce qui se passe notamment, c'est pour ça que j'ai mis cette photo de terrain en route, sur la route, cet entre-deux, en fait, il a un double sens. Hein. C'est à la fois ce qui passe et ce qui se passe. Donc c'est en même temps réfléchir aux multiples passages, aux multiples traversées, aux multiples circulations, et d'ailleurs pas seulement des circulations humaines, parce que le passage amène aussi, hein, il y a tout un travail en cours par certains membres de lycée, notamment sur la question des objets, par exemple des objets du passage, ce qui se passe et ce qui passe. Et c'est ce double aspect qui m'intéresse, et notamment leur articulation. Alors, je vais travailler sur deux étapes, c'est très caricatural ce que je vais faire, mais Bon, c'est comme ça que j'ai pensé vous le présenter. Deux étapes, donc, depuis les années 90, de la réflexion sur les migrations. Donc, je les sépare de façon un petit peu artificielle. Mais l'idée, c'est de vous montrer quand même comment on a eu un petit peu deux moments, notamment en géographie, mais pas seulement, deux moments de réflexion qui vont questionner, en fait, et aborder la frontière de façon différente. Donc, un premier moment qui se déroule de façon, là aussi, vraiment, grosso modo, du début des années 90, du tout début des années 90 à la moitié des années 2000, même si, voilà, il y a des choses qui se superposent. Hein. Et puis ensuite, ce qui se joue dans les études migratoires autour de la notion de frontière depuis une quinzaine d'années. Donc, la première époque que je vais évoquer, ce qui me semble important à dire, même si je ne vais pas trop développer là-dessus, mais ce qui me semble important à dire, c'est qu'elle se caractérise, et c'est vraiment étonnant, par un leitmotiv, c'est que une grande partie des travaux, en fait, sur les migrations qui se développent donc entre 90 et 2005, pour le dire rapidement, vont porter sur ce qu'on va appeler les nouvelles migrations. Voilà. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans les travaux anglophones, même si ça veut dire autre chose, donc je ne vais pas trop en parler là. Mais en tout cas, dans la littérature francophone, c'est impressionnant. On a un certain nombre de livres, et là encore, je vous en ai mis que quelques-uns. En fait, il y a beaucoup de numéros spéciaux de revues aussi qui vont sortir sur les nouvelles migrations, les nouvelles configurations migratoires, les nouvelles formes migratoires, etc. Alors, nouveauté, je vous l'ai déjà dit, on est dans un contexte particulier, un contexte de questionnement sur la mondialisation. Qu'est-ce que va apporter la mondialisation à la réflexion sur les migrations ? On est dans un contexte aussi où les migrations évoluent du fait de transformation des marchés du travail, notamment dans les sociétés des Nords, donc avec cette idée qu'on a une disparition, en fait, dans les travaux, en tout cas, hein, de la figure du travailleur immigré, de l'ouvrier traditionnel, et on va mettre en avant, en fait, de nouvelles formes de segmentation du marché du travail, on va mettre en avant la tertiarisation du marché du travail, donc le fait que de plus en plus de migrants se trouvent dans des secteurs, plutôt dans le secteur tertiaire, et on va mettre en avant aussi dans cette réflexion sur les nouvelles formes de migration ce qu'on va appeler parfois la mondialisation des migrations, c'est-à-dire le fait que les migrations, de plus en plus les pays d'immigration attirent des migrations venues du monde entier. Bon, en fait, c'est pas exactement vrai, mais en tout cas il y avait une insistance un peu sur cette dimension-là dans ces travaux, puisqu'aujourd'hui on sait que la plupart des migrations sont régionalisées. Un autre aspect de ces travaux, ça va être aussi toujours dans cette idée d'insister sur la diversification des formes de migration, d'insister sur la part croissante des réfugiés dans les flux migratoires, et aussi de montrer, en fait, que les migrations, souvent, il y a une espèce de continuum entre des formes migratoires économiques et des formes d'asile, et que c'est intéressant aussi de travailler l'articulation entre ces deux figures opposées que sont, le migrant économique et le demandeur d'asile. Alors, c'est une phase aussi où les auteurs utilisent des termes très forts, donc il y a cette idée de nouveauté, de nouvelles formes, mais d'autres termes encore, pour indiquer qu'on est dans une période de changement, une période où on a du mal à cerner, en fait, voilà, les contours de ces flux. Donc on parle de turbulence, de brouillage des cartes, de formes migratoires mondialisées, sans trop savoir encore vraiment de quoi on parle. Donc c'est une phase qui est caractérisée par le changement. Et le deuxième aspect sur lequel je vais m'attarder davantage de cette phase-là, parce que pour le coup, il touche véritablement directement à la question des frontières, c'est que c'est aussi une phase qui est caractérisée, et certains de ces livres sont des livres consacrés à cette question-là, en fait, c'est une phase qui est caractérisée par la montée d'un courant d'études qui va véritablement, alors est-ce que c'est une révolution épistémologique, je ne le sais pas, mais en tout cas qui va marquer très fortement la réflexion sur les migrations, à savoir ce que, dans la sphère plutôt anglophone, on a appelé le transnationalisme, mais on l'utilise aussi en France, bien entendu, hein, et dans la sphère francophone, ce qu'on a parfois appelé les travaux sur la circulation migratoire. Ce sont deux termes qui vont être très importants, et je vous en parle parce qu'ils vont amener une réflexion sur la notion de frontière qui va être au cœur donc, de ces travaux-là. Donc, très rapidement, les termes, le terme de transnationalisme, il n'est pas uniquement propre à la sphère des études migratoires, mais en tout cas dans les études migratoires, il apparaît au début des années 90 à l'initiative de trois anthropologues avec un livre qui sort dans une maison d'édition pas forcément très importante, des anthropologues qui ne sont pas forcément non plus très établis, mais un livre qui va avoir un succès absolument phénoménal, qui va marquer au moins, disons, une décennie de recherche sur ces questions-là. Hein. Et donc, pourquoi ça touche à la question des frontières? Parce qu'à ce moment-là, c'est la définition qui est proposée du transnationalisme par ces trois anthropologues, c'est que ce transnationalisme se réfère donc à ces liens que forgent les migrants entre société d'accueil et société d'origine, pardon, et surtout que ce transnationalisme est un phénomène qui traverse et qui dépasse dans une certaine mesure les frontières, hein, les frontières géographiques, culturelles, politiques, traditionnelles. Et donc c'est cette idée du caractère transfrontalier du transnationalisme qui va accompagner toute la réflexion dans cette décennie-là et que l'on va retrouver dans de nombreux travaux. Donc l'influence de ce livre a été très grande, je vous le disais. En France, elle a amené à de nombreuses thèses. Hein. On a plusieurs exemples de thèses sur les circulations transnationales, par exemple des migrants entre le Mexique et les États-Unis, en géographie, sur le lien entre circulation, migration et développement vers le Maroc. Hein. C'est la thèse de Thomas Lacroix, les travaux de Laurent Farré. Enfin, il va y avoir dans ces années-là, dans les années 90, début des années 2000, beaucoup de travaux en géographie qui vont insister sur ces liens, qu'il s'agisse des activités politiques, des transferts financiers, du lien entre migration et développement, des relations familiales, mais qui vont insister très fortement sur ces liens qui se tissent au-delà des frontières. Et en parallèle, dans ces mêmes années-là, on assiste aussi au développement d'une série de travaux en France, en fait, sur ce qu'on va appeler la circulation migratoire. Et là aussi, alors des fois, les thèmes se rejoignent, comme sur ce livre qui va s'appeler « Les circulations transnationales », parce qu'effectivement, les deux sont très liés, où on va s'intéresser aux activités de mobilité, de circulation que mettent en place les migrants. Et dans ces travaux, ces travaux vont s'inscrire dans une tradition importante qui n'est pas du tout neuve pour le coup, notamment en géographie, de réflexion sur les réseaux sociaux mis en place par les migrants, sur les chaînes migratoires, sur les territoires mis en place par les migrants, etc. Et parmi ces travaux, il faut que je mentionne un travail qui a été pionnier, qui a été important à ce moment-là, qui a été le travail d'Alain Tarius autour des circulants maghrébins. Donc Alain Tarius était parti en fait d'une ethnographie de ce qu'il appelle une place marchande transfrontalière. Là encore, il y a beaucoup de trans dans tout ça. Donc à partir de Marseille en fait, hein, donc qui a cette position frontalière de fait, hein, puisqu'on en est à réfléchir sur ce qu'est la frontière et ce qu'elle n'est pas. On va commencer dans ces travaux-là à réfléchir à la notion de ville frontière. Et les villes frontières, moi-même j'ai travaillé à ce moment-là sur Naples, les villes frontières, ce sont ces villes qui, par leur positionnement spécifique, ce sont souvent des ports, mais pas toujours, hein, Naples, Marseille, Alicante, Istanbul et d'autres, vont jouer un rôle frontalier, puisque un certain nombre de migrants, et on va se rendre compte en lisant Tarius que ces migrants ne sont pas une exception, qu'ils sont nombreux, qu'ils sont importants, hein, puisque à un moment donné, il avait procédé, alors façon un peu artisanale, mais il avait procédé à un comptage des flux, et il avait, à la fin des années 80, considéré qu'il y avait plus de 700 000 commerçants qui, chaque année, venaient s'approvisionner à Marseille. Donc, cette place marchande transfrontalière, elle est animée par des flux. Alors, souvent, ce sont des migrants qui, par ailleurs, sont installés en Europe, mais qui passent par Marseille et qui s'approvisionnent à Marseille pour faire circuler des marchandises qu'ils vont revendre un petit peu aux quatre coins de la Méditerranée. Et donc, c'est une phase importante parce qu'on va mettre en évidence ces phénomènes de circulation, l'importance de ces phénomènes. Le titre « Les fourmis d'Europe » est évocateur parce qu'on voit que ce sont des petite circulation de marchandises, hein, ce ne sont pas des circulations importantes, mais elles vont initier ce que Michel Peraldi a appelé des norias, et donc cette idée que il y a un mouvement d'ensemble qui se crée et qui contribue à la transformation de ces espaces urbains, de ces places marchandes transfrontalières, qui deviennent des lieux frontières à proprement parler. Donc, beaucoup de travaux sur cette question à cette époque, avec donc des réseaux circulatoires, c'est-à-dire que ce sont des travaux qui, à la fois, mettent en évidence ces réseaux de circulation et, en même temps, la transformation des places marchandes. Donc, par exemple, moi, j'avais travaillé sur un réseau spécifique qui était un réseau de commerçantes tunisiennes qui provenaient de la ville de Sousse, en Tunisie, et qui faisaient du va-et-vient. Donc, la petite image, là, à droite, c'est le type de produit qu'elles achetaient en Italie, mais, en fait, les mobilités de ces femmes étaient tout à fait importantes et je vais vous les montrer, c'est vertigineux si on pense à la situation en fait en Méditerranée aujourd'hui. On avait cartographié les mobilités de ces femmes commerçantes tunisiennes qui, moi je les avais rencontrées à Naples parce qu'à Naples elles achetaient du linge de maison, elles achetaient des vêtements, du cuir, etc. Mais en fait, leur mobilité couvrait l'ensemble de la Méditerranée, contribuait à animer des places marchandes. Hein. À Paris, c'était plutôt les robes de mariée à Barbès, à Marseille le linge de maison, mais elles allaient jusqu'à Alep. Hein, si on pense à la situation aujourd'hui à Alep, la Méditerranée a bien changé. Elles allaient même jusqu'en fait en Extrême-Orient, elles allaient en Chine et à Bangkok s'approvisionner. Donc ces phénomènes de circulation, ils ont amené, et c'est aussi pour cela qu'ils ont parfois été critiqués, un très grand enthousiasme de la part des chercheurs, parce qu'on assistait en fait à la façon dont les personnes étaient capables de finalement de contourner, de subvertir hein, les frontières nationales et de bénéficier de ces frontières d'une certaine manière par des activités qui parfois étaient licites, parfois étaient illicites. Il n'y avait pas vraiment... Il y avait un petit peu les deux. Et donc, cette réflexion, évidemment, elle s'alimentait des débats plus généraux de l'époque sur l'anthropologie, autour de l'anthropologie de la mondialisation notamment, et autour de la façon dont on pouvait travailler, sur ces phénomènes de circulation. Et donc, c'est une période où on a notamment été très influencé par les travaux des socio-anthropologues qui nous expliquaient notamment, hein, et c'est notamment cet article de Marcus, de Georges Marcus, qui a été très important dans les années 90, qui nous disait il faut suivre et rester, enfin c'est très mal traduit, mais bon, dans le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'anthropologie de la mondialisation n'était pas seulement une anthropologie multisituée au sens où il fallait suivre ces migrants, par exemple, et ces migrantes dans plusieurs sites, mais aussi, en fait, être dans le mouvement, être dans cet espace de la circulation. Et donc, ça nous amenait à pratiquer, en fait, ce qu'on peut appeler une ethnographie mobile. Et donc, vous comprenez à quel point ça a pu enflammer, comme le dit Marc-Anthony Falzon, qui est un spécialiste d'ethnographie multisituée, ça a pu enflammer notre imagination géographique que de pouvoir pratiquer ces ethnographies. Voilà. Donc, on va suivre les hommes et les femmes, on va suivre ceux qui les accompagnent et on va à la fois théoriser ce qu'on pourrait appeler l'idée du lieu frontière, en fait. Hein. Alors, je vous donne une définition qui avait été proposée à l'époque par Michel Peraldi, qu'on va retrouver après quand on va penser un peu différemment les lieux frontières, à savoir ces lieux urbains où le sens de la frontière se retourne et se transforme de ligne en lieu. C'est-à-dire où la frontière prend consistance, non pas seulement comme marquage, empreinte souverainiste, mais comme micro-société. Hein. Et on retrouve des choses similaires après, quand on va, notamment dans le travail de Michel Agier, je pense, quand on travaille sur la question de la frontière aujourd'hui. Hein. Donc la frontière comme micro-société capable de tirer socialement et économiquement profit de sa disposition frontalière. Donc ces lieux frontières, ces micro-sociétés cosmopolites d'une certaine manière, c'est une époque aussi où on parle beaucoup de cosmopolitisme par le bas, par exemple. Donc cette idée que le cosmopolitisme qu'a décrit Antoine ne serait pas propre uniquement aux élites, justement, aux élites de la mondialisation, qui auraient cette disposition à la circulation particulièrement importante, mais qu'aussi les petits acteurs de la mondialisation auraient aussi cette disposition au cosmopolitisme qui passerait aussi, c'est très important de le dire, par l'activité commerciale. Alors, La frontière dans ces travaux, c'est celle qu'on dépasse, celle qu'on outrepasse, celle qu'on traverse aisément, c'est celle qui permet de tirer profit des différentiels, je vous l'ai déjà dit. Au final, les migrants sont décrits comme des gens qui profitent et jouent des frontières. C'est très stimulant du point de vue méthodologique, ça a permis de dénoncer, de dépasser ce qu'on a appelé le nationalisme méthodologique, donc l'idée de limiter nos investigations à l'espace circonscrit de l'État-nation, aux données aussi que produisent l'État-nation, ça permettait de produire autre chose, quelque chose d'un peu différent par rapport à des données nationales qu'on pouvait avoir. Mais évidemment, ce qui a été beaucoup critiqué dans ces travaux, hein, c'est une forme peut-être de naïveté, une forme en tout cas d'enthousiasme pour ces nouvelles formes de migration. Et donc, voilà, quand on regarde ces travaux aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'expressions qui étaient très présentes. Autonomie, capacité, ressources, compétences, savoir-faire, savoir-circuler. Donc, on était véritablement dans un paradigme, finalement, de l'agency, hein, de la capacité migrante. Et qui épousait, hein, si on regarde les critiques que fait Boltanski, par exemple, Boltanski et Capello, au nouvel esprit du capitalisme, qui était finalement un petit peu aussi dans cet esprit-là, quoi. Donc, évidemment, on peut faire un retour critique de ce point de vue-là sur ces travaux. Et puis, il y a donc ce que, de façon très caricaturale, j'appellerais le tournant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, d'une part, le transnationalisme commence à perdre un peu de son importance dans les travaux. Alors là, j'ai mis simplement un nuage de mots qui se réfère aux principales revues anglophones sur les études migratoires, où on voit qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le transnational reste, et parce qu'en fait, aujourd'hui, la notion de transnational est devenue quelque chose d'assez banal, finalement. Oui, il y a des mouvements transnationaux, il y a des circulations transnationaux au-delà des frontières, etc. Mais par contre, la notion de transnationalisme en tant que telle, qui était un petit peu poussée, hein, qui était vraiment l'idée d'une théorie spécifique, hein, a beaucoup perdu de son importance dans les travaux, dans les mots-clés, en tout cas, qu'on peut associer. Ce sont les mots-clés qui figurent dans les titres et les résumés des articles. Alors, un tournant, on pourrait utiliser plein d'indicateurs, en fait, pour parler de ce tournant. Alors, la notion de transnationalisme perd de sa vigueur et les travaux sur la frontière connaissent un développement très important. Ils étaient bien sûr existants avant. Il y avait notamment, pas seulement, mais notamment une réflexion très importante qui était menée dans le contexte de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il y a eu au début des années 2000 et même à la fin des années 90 des numéros très importants de revues comme Culture et Conflit, hein, qui ont été dédiés à la question des frontières, un certain nombre de livres qui sortent. Et puis, alors, dans le contexte des États-Unis, il y a un moment important qu'est le 11 septembre. Ça, c'est évident que le 11 septembre, du côté des États-Unis et du côté des travaux qui sont produit sur la question, marque un tournant, si bien que Thomas Feist propose d'utiliser à partir de ce moment-là la notion de migration security nexus, donc l'idée qu'il y aurait un lien très fort, une relation très forte entre les questions de migration et les questions de sécurité. En tout cas, la sécurité, le contrôle, la frontière prennent de plus en plus d'importance dans les travaux, avec des précurseurs, bien entendu. En Europe, on peut penser à Didier Bigot, on peut penser à Étienne Balibar et d'autres qui, y compris ici présents, ont travaillé sur ces questions-là assez tôt, Alain Maurice aussi. Alors, moi, comme je parle du point de vue des géographes aussi, j'avais envie de signaler un phénomène, par exemple, intéressant, qui n'est pas seulement d'ailleurs quelque chose qui appartient aux géographes, hein, quelque chose d'intéressant et d'hybride, à mon avis, qui est ce finalement, pas seulement le collectif Migre-Europe, qui est un collectif important, qui rassemble des chercheurs et des non-chercheurs, en tout cas des gens qui militent autour de la question de l'ouverture des frontières, et qui produit depuis 2009, et là aussi, donc c'est un moment important du point de vue des géographes, un atlas qui a été maintenant réédité 3 fois, qui a été publié en anglais, qui est l'atlas critique des migrations en Europe. D'ailleurs, il ne s'appelait pas critique au début. Ah si, quand même, approche critique des politiques migratoires. Ouais. Et puis après, géographie critique, peu importe. En tout cas, voilà. Bon, pour moi, Migre-Europe fait d'abord figure d'intellectuel collectif, parce que c'est des gens qui réfléchissent ensemble à cette question des frontières. Il y a Parmi ces animateurs-là, une figure qui est un géographe, hein, Olivier Clochard, mais il y en a eu d'autres aussi qui appartiennent un peu à cette nébuleuse, Philippe Recasevitz, Nicolas Lambert, d'autres, Françoise Bahoken, qui vont réfléchir à cette question de la cartographie, de la représentation, donc pour revenir à mon introduction, de la représentation des frontières, et qui vont mener donc, cette entreprise collective, qui est une entreprise aussi hybride, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, entre militantisme, enfin c'est aussi pour ça qu'elle est intéressante, entre militantisme et recherche, en fait, hein, recherche-action, on pourrait dire. Donc une initiative qui, à la fois, à mon avis, qui a une grande valeur scientifique, mais aussi une grande valeur militante. Et donc voilà, donc cet atlas qui... notamment va mener une réflexion autour d'une carte qui est peut-être la plus célèbre des cartes de géographes réalisées dans les 20 dernières années, à savoir la fameuse carte des morts, hein, qui là aussi est intéressante parce que c'est un produit un petit peu collectif qui a circulé, puisque au début c'était une idée de Philippe Recasevitz pour le monde diplomatique, ensuite Olivier Clochard se l'est approprié, Nicolas Lambert a fait toute une série d'exercices cartographiques autour de cette carte, donc en fait, voilà, c'est quelque chose d'assez, c'est un objet qui circule et là pour le coup qui permet de décrire de façon très forte à mon avis, très clair, très net, la matérialisation de la frontière par le nombre de morts. Donc, il y aurait toute une réflexion. Enfin, il y a beaucoup de travaux en fait sur l'histoire de cette carte et aussi sur l'histoire du comptage des morts. Antoine aussi a participé à ces travaux. Hein. Il y a toute une histoire politique du comptage des morts à la frontière et notamment en Méditerranée. Mais en tout cas, cette carte. Alors là, en l'occurrence, c'est une version possible de la carte. Je vous dis, il y en a des dizaines. Cette version-là, elle vous montre comment, en fait, le nombre des morts a augmenté. Hein. C'est-à-dire, en fait, que la première carte représente une période de 93 à 2009, et la deuxième carte représente que les 7 années qui ont suivi. Et vous voyez à quel point il y a eu une intensification du nombre des morts, mais c'est aussi une carte qui permet de localiser, hein, avec ces espèces de grappes formées par les cercles. Qui permettent de visualiser le nombre de morts. Donc voilà, c'est une carte qui parle particulièrement et qui nous montre bien finalement cette autre fonction de la frontière qu'on avait un petit peu laissée de côté quand on parlait de transnationalisme et de circulation transnationale et de place marchande transfrontalière. Cette frontière qui trie, cette frontière qui tue, cette frontière qui filtre et ce qui ne, justement, pour revenir à l'idée de départ de ce qui passe et ce qui ne passe pas à la frontière, ce qui s'arrête en fait à la frontière. Donc ce tournant, dont la carte des morts peut être un des emblèmes de ce tournant dans les travaux sur la question et qui évidemment est aussi lié à la dureté du contexte, hein, dureté du contexte marquée par l'augmentation de la rétention et des expulsions, du contrôle frontalier, des formes d'irrégularisation, donc de production de l'irrégularité de la migration, hein, et de l'asile, d'ailleurs, du fait de la restriction des voies légales d'entrée dont Antoine a déjà parlé, l'externalisation, bien entendu, hein, la mise en place de contrôle à l'extérieur des territoires, et notamment des territoires européens, la mise en place de régimes d'expulsion, hein, qui encourage, bien entendu, une réflexion plus critique sur les frontières de la part des universitaires. Vous voyez que mon propos est aussi un propos sur la façon dont contexte politique, contexte de recherche s'influencent mutuellement. Donc, ces travaux, que font-ils ? Bon, ils rappellent, bien entendu, l'existence des frontières, déjà, c'est-à-dire qu'on est passé d'une phase... J'exagère, hein, mais une phase où il y avait quand même certains auteurs importants, influents, comme Omahé, par exemple, qui parlait de disparition des frontières. Donc là, on est dans une phase où, au contraire, on va expliquer que la frontière est plus que jamais présente, finalement, que cette frontière est de plus en plus importante, et l'influence de Balibar sur ses travaux, d'Étienne Balibar, est très importante, et encore aujourd'hui, elle l'est, hein, à savoir que si la frontière est de plus en plus importante, cette frontière a aussi changé de forme, et là, ça intéresse les géographes, et donc elle va aussi se présenter de façon différente. Il va falloir travailler sur des zones, des régions, des pays. Et donc, le rapport entre la frontière et le territoire évolue beaucoup. Et cette frontière, en fait, doit être considérée plutôt comme un processus. Hein. Les géographes politiques parleraient de processus de territorialisation l'expression déterritorialisation, reterritorialisation de la frontière, influencée un peu par Deleuze et compagnie. Mais en tout cas, il y a cette idée-là d'un processus qui se met en place. Cette idée d'un processus et cette idée d'un questionnement autour de la linéarité de la frontière. Donc on a un livre que j'aime beaucoup, mais qui n'existe qu'en italien, je crois, malheureusement, hein, Lo spettacolo del confine, qui est un livre de Paolo Cutita, qui est actuellement accueilli à Paris chez Antoine Pécou, qui justement remet en question cette idée d'une linéarité de la frontière et surtout remet en question la naturalisation de Lampedusa comme île frontière, c'est-à-dire avec l'idée que non, il n'y a pas de frontières naturelles, ce sont des frontières qu'on construit, et ces frontières sont, avant d'être des lignes dans la mer, des lignes dans le sable, sont des lieux. Donc là, je vais vous parler un petit peu de toutes ces métaphores ou de toutes ces expressions géographiques qui ont été utilisées pour désigner les nouvelles formes de la frontière. Donc, on questionne l'idée d'une linéarité de la frontière et on a d'autres expressions qui apparaissent dans la recherche. Par exemple, l'idée d'une frontière réseau, d'une frontière réticulaire. Alors là aussi, je cite les travaux qui ont été menés par Migre Europe pour vous montrer, par exemple, comment la carte, la fameuse carte des camps, hein, qu'elle a aussi, qui est quelque chose d'assez collectif, puisqu'on a retrouvé ça aussi dans les travaux de Migre Europe, qui était aussi une carte interactive hein, qu'on pouvait renseigner en ligne, hein, mais aussi d'autres collectifs, et puis aussi dans les travaux de Michel Agier sur les camps. Donc cette carte, elle permet de montrer comment progressivement, en fait, il y a une extension du domaine des camps, si vous voulez, en Europe et au-delà de l'Europe, bien entendu, même si les données parfois dont on dispose sont moins importantes, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique du Nord, c'était un des problèmes de cette carte, c'est qu'elle ne représente que ce à quoi on a accès. Hein, la question de la... Aujourd'hui, bon, ça c'est une carte assez datée, mais aujourd'hui c'est la question de la Libye, par exemple, qui pose question, qui pose problème. Donc cette idée d'une frontière réticulaire, d'une frontière réseau qui s'étendrait à l'image d'une toile d'araignée, en quelque sorte, hein, sur l'ensemble des territoires. Donc ça, c'est une des métaphore qu'on peut utiliser. Une autre métaphore, une autre expression, pardon, ça va être celle de lieu frontière. Donc on retrouve le lieu frontière dont on avait parlé au sujet des places marchandes transfrontalières, mais cette fois-ci pour montrer comment se fixent en certains lieux spécifiques à un moment donné toutes les caractéristiques de la frontière, celle du contrôle, celle de la visibilisation aussi du contrôle, hein, celle du tri, celle du filtrage. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a travaillé, par exemple, que Michel a travaillé sur les camps, qu'il y a eu beaucoup de travaux sur les prisons, un type de lieu frontière et les centres de rétention, les villes, les enclaves, les aéroports, les îles. Hein, moi-même, j'ai travaillé sur les îles pour montrer comment, à un moment donné, une île... Alors, là aussi, en écho au travail de Paolo Cutita, une île devient un lieu où se concentrent un certain nombre de mécanismes frontaliers, et toujours avec cette idée de déconstruire les évidences, parce que l'île, à un moment donné, peut être un lieu frontière. Et puis vous voyez qu'en plein cœur de la crise migratoire, si vous regardez les chiffres des arrivées à Lampedusa, vous voyez qu'en plein cœur de la crise migratoire, en fait, les personnes cessent, ou en tout cas, les arrivées à Lampedusa diminuent. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les personnes sont interceptées en mer, elles vont être acheminées vers d'autres lieux. Donc, en fait, la fonction de lieu frontière de Lampedusa, et c'est quelque chose qu'on... Quand on observe ce qui s'est passé du point de vue de la géographie des flux pendant la crise migratoire, on oublie parfois, en fait, la fonction de lieu frontière de Lampedusa diminue pendant la crise migratoire. Et un cas encore plus marquant, hein, c'est le cas de l'île de Malte. Alors là aussi, là, vous avez les demandes d'asile et les arrivées par bateau. Et donc, je vous invite à regarder plutôt les arrivées par bateau. Et vous voyez qu'en fait, au cœur de la crise migratoire, là aussi, et encore plus, a fortiori qu'à Lampedusa, parce que là, c'est vraiment évident que plus personne n'arrive à un moment donné. Alors, ça a un petit peu changé là récemment, mais plus personne n'arrive à Malte. C'est-à-dire que Malte, qui est quand même au cœur de la route migratoire qui a été une des plus importantes avec la route entre la Grèce et la Turquie de cette fameuse crise avec beaucoup de guillemets, au cœur du canal de Sicile, a réussi à ne pas avoir d'arrivée en plein cœur de la crise migratoire. Et donc là, on voit bien comment on produit, on construit ce qui est une frontière, mais aussi ce qui n'en est pas, quoi, finalement. C'est une longue histoire d'accords, de diplomatie plus ou moins grise entre Malte et d'autres États, qui a fait que, et notamment l'Italie, qui a fait que Malte a réussi à se tenir complètement à l'abri de la crise migratoire. Donc ça, c'est une autre expression, l'expression de lieu frontière. On va aussi parler de zone frontière, et la zone frontière par excellence aujourd'hui, évidemment, si on travaille sur l'Europe, c'est la Méditerranée. Donc cette idée que la Méditerranée est cette zone dans laquelle apparaissent différents acteurs qui se contestent la frontière, qui ont des visions de la frontière différentes, des militants, des ONG, des migrants, des États, etc., etc. Différents acteurs de ces États aussi, voilà. Donc ça, c'est disons, la façon dont la notion de frontière nous amène un petit peu à travailler autour d'un nouvel imaginaire géographique. Il y a aussi cette idée de la frontière mouvante. Hein. Donc, moi, j'avais travaillé sur le corps des femmes comme frontière mouvante, en travaillant sur la question aussi des Dublinés, hein, à la fin des années 2000, de la façon dont les femmes, en fait, qui passaient par Malte, étaient envoyées, se rendaient, parce qu'elles le souhaitaient, parce qu'elles avaient des amis, des connaissances, vers des pays du nord de l'Europe, et était renvoyée à Malte dans le cadre des accords de Dublin. Et donc cette idée qu'avec les dispositifs de suivi maintenant des migrantes et des migrants, on pouvait parler véritablement de frontières mobiles et du corps comme frontière. Bon, la frontière, je vous l'ai dit, c'est un lieu aussi de rapport de force, c'est un lieu de contestation, c'est un lieu où se confrontent différentes formes, différentes définitions de la frontière par rapport, ça peut faire un peu le lien par rapport à ce que nous a dit Antoine avant. Et c'est aussi un lieu de négociation et parfois aussi un lieu où adviennent en fait à la fois la définition, en fait l'articulation de différents régimes. Immobilité, mobilité, illégalité, légalité, légitimité, illégitimité. Donc ce qui est ce qui en fait est dans le nous et ce qui est dans l'autre. Et c'est là qu'on négocie aussi ces frontières-là, et c'est là que s'articule aussi la frontière spatiale et la frontière sociale. Donc pour faire la continuité avec ce que j'ai dit avant, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on peut aussi, par rapport à cette première phase de recherche, voir que on continue en fait à travailler un peu de façon assez similaire, parce qu'on pourrait se dire devant cette nouvelle ces nouvelles formes de frontières, comment les chercheurs, et notamment les chercheurs qui font de l'ethnographie, peuvent, donc de l'observation participante, peuvent se positionner, comment peuvent-ils travailler sur ces frontières qui ne cessent d'abord de se reterritorialiser, donc il y a un problème de localisation des terrains, ces frontières qui ne cessent de bouger, et ces personnes aux frontières qui sont dans une tension en fait entre immobilisation forcée et mise en mobilité, parfois mise en mobilité forcée sous l'effet des procédures d'expulsion, de retour, d'accompagnement, etc. Alors, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place, mais effectivement, l'ethnographie mobile continue à être quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut que les chercheurs continuent à se déplacer, continuent à être justement dans la frontière et à évoluer avec ces formes de frontières. Hein. Une autre possibilité, c'est de chercher la trace des passages et des obstacles, et je vous renvoie à ce très très beau documentaire, ils en ont fait d'autres depuis, mais celui-là est justement sur cette question du traçage de la frontière, utiliser les traces de la frontière pour documenter ce qui se passe en Méditerranée. C'est ce documentaire qui s'appelle Liquid Traces de Charles Heller et Lorenzo Pezzani. On peut recueillir les récits de trajectoire, c'est ce qu'on fait également, et ensuite observer à un moment donné comment les rapports se cristallisent en des zones ou des lieux frontières, hein, et c'est ce qu'on fait à partir d'un certain nombre de situations. Une des difficultés qu'on a, c'est, comme je vous le disais, cette reterritorialisation constante, cette labilité de la frontière, des dispositifs. Là, je vous donne un exemple d'une photo prise à Malte à deux moments de terrain différents, dans le centre, donc un des centres entre guillemets, d'accueil des demandeurs d'asile à Malte, où on voit comment les dispositifs mis en place ne cessent d'évoluer, ne cessent de changer de forme. À un moment donné du terrain, il s'agissait d'hommes seuls qui étaient donc entassés, on peut le dire, dans des lits. À un autre moment, il y avait la Croix-Rouge, il y avait des cartes, il y avait des tentes, pardon, il y avait des familles. Donc, ces deux photos montrent qu'un dispositif évolue très vite, il se reterritorialise, mais même les dispositifs qui restent au même endroit sont extrêmement labiles. Et donc, il y a aussi, évidemment, cette invitation à pratiquer une ethnographie qui soit sur le long terme aussi, parce que sinon on ne peut pas véritablement comprendre. D'ailleurs, c'est une ethnographie, c'est forcément sur le long terme. On ne peut pas comprendre ce qui se joue sur le long terme à la frontière. Voilà, je vais conclure. Donc, que dire ? Alors, en fait, la question qui était en filigrane dans mon intervention et qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a, finalement, à partir de la notion de frontière, est-ce qu'on peut observer un tournant critique ces dernières décennies dans les études sur les migrations ? Et il me semble que la notion de frontière, en particulier, se prête bien à la réflexion sur, sur cette évolution critique qui caractérise les études migratoires, hein, et au-delà, probablement, les sciences sociales. Mais en tout cas, cette idée que comme vous l'aurez compris, je pense, la description de la frontière aujourd'hui peut difficilement s'émanciper d'une réflexion sur ce qui se fait, ce qui se passe à la frontière, et une réflexion critique sur ce qui se passe à la frontière. Voilà, il me semble qu'au terme de cette réflexion, on peut aussi parler de la façon dont finalement a été pensé le lien entre État et frontière linéaire, et la façon dont on pourrait re-réfléchir à ce lien-là, parce qu'en réalité, la frontière de l'État n'est plus non plus, ou pas seulement, une frontière linéaire, et donc aussi sur toutes les expressions qui ont pu être produites dans les sciences sociales pour réfléchir en termes d'imaginaire géographique à la façon dont on pourrait repenser, redécrire, transformer nos descriptions de la frontière, la façon dont il est important de continuer à circuler en faisant du terrain, et peut-être que aussi quelque chose qu'on devrait garder de ces études des années 90, qui donc ont été un petit peu décriées pour leur caractère un peu enthousiaste, et puis là, le fait d'inventer des choses qui existaient aussi déjà par le passé, aussi il y avait un peu cette critique là aussi. Ce qu'on peut garder de ces études, certainement, c'est cet intérêt pour les subjectivités transnationales, en travaillant aussi les subjectivités qui se créent, qui se jouent aujourd'hui à la frontière. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.